Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, la plume est à vous, Michel Philippot. Après quelques rediffusions, histoire de se remettre des agapes de fin d'année, mais surtout histoire de récupérer des quelques virus malfaisants qui nous guettaient les uns et les autres au détour de 2020, eh bien je vous retrouve en pleine forme et avec grand plaisir en ce dimanche soir. Au nom de toute l'équipe de La Plume est à vous, chères auditrices et chers auditeurs, recevez nos meilleurs vœux à l'écoute de Bretagne 5. Dans un climat social plutôt tendu et inquiet, je vous propose de démarrer l'année tout en poésie et tout en légèreté avec, pour commencer, trois textes très courts dus à la plume aérienne et subtile de Marie Robin Bourdon. Dans l'ordre et sans transition, je vous propose d'entendre Arc-en-ciel, Guignol, puis Soleil rose. L'arc-en-ciel a posé ses pinceaux, les jambes fatiguées de se tenir toujours parfait. Les couleurs indisciplinées ont décidé de s'amuser, de créer un tableau subjonctif. Le vert a formé un rond, pleine lune nouvelle, à dessiner le nez, les yeux, comme font les enfants, et la bouche qui parle. Le bleu, lui, a donné son ciel, tendu l'azur de son drap, dilué dans le blanc. A répandu une goutte de pluie qui s'est mise à danser. Le jaune a fait soleil, courant devant la lune, les cheveux au vent de l'été. L'iceberg rouge a dévalé l'écume du torrent pourpre. Son reflet orangé l'a suivi en rêvant. Le noir a mis sa touche et l'écume en réponse a gonflé son bouillon. Liberté des couleurs tombées du ciel. L'homme qui passait les a enfermés dans un bocal aux bords épais, figé le temps de la photo. Suspension de l'instant magique de l'arc-en-ciel recomposé. Grand guignol solitaire, en suspension cosmique, pantin céleste, habillé rose et bleu, actionné par des fils invisibles, incertains, le bras plié, la tête penchée, les pieds accrochés dans le vide. son pantalon, jean, aux genoux marqués. Il pense et ne peut avancer. La nuit saphire, la lune peut-être, dans un halo, l'éclaire. Un croissant en forme de bouche ouverte, prête à l'engloutir. L'astre solaire, à la tombée du jour, va bientôt se taire. La veste colorée se diluer dans l'air, le souffle d'un ange, les fleurs de son aile, il rêve et disparaît. Soleil rose. Dans le ciel de la nuit, pas de lune ce soir. Pas de croissant céleste pour la fine bouche, pour la fenêtre du regard. Les astres joueurs se rient de nous. Le soleil a pris place sur l'horizon des cœurs, voilé de rose pour surprendre. Et demain, à l'aube, la lune sera bleue.
C'est un homme qui transforme ses chagrins en doux refrains, ses maladies en mélodie, ses nuits de neige en bel arpège. C'est un homme qui transforme. C'est un homme qui transforme ses tracas en guernica, toutes ses névroses en vers en prose. Comme il est triste, cet alchimiste. C'est un homme qui transforme. Regardez-le pleurer ses larmes d'or. Regardez-les fleurir notre décor, les larmes d'or. C'est un homme qui transforme ses problèmes en longs poèmes, ses herbes folles en tournesol. Comme il est triste, c'est alchimiste. C'est un homme qui transforme. Regardez-le pleurer ses larmes d'or. Regardez-les fleurir notre décor, les larmes d'or.
Les larmes d'or que nous venons d'entendre, un album de Frédéric Bobin, un chanteur pétri de talent que j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir à travers cette chanson éponyme, Les larmes d'or, qui a donné son titre à l'album et où l'on retrouve Frédéric Bobin en duo avec le chanteur Kent. L'Olympia, la Cigale, le Trianon sont autant de scènes nationales et parisiennes où il s'est déjà produit. On le trouve également aux côtés d'artistes confirmés tels que notamment Sanseverino. Comme dans les trois textes précédents de Marie-Robin Bourdon, c'est ici toute la sensibilité de l'artiste qui est partagée à travers l'évocation de ce processus créatif qui s'empare de l'artiste, de ses sens en éveil et qui, pour citer Marie-Robin Bourdon, recompose les couleurs de l'arc-en-ciel, tire les fils de ce pantin céleste accroché sur les bords du vide et contemple, en rêvant, le soleil voilé de rose et la lune nimbée du bleu de l'aube. Dans un registre très différent, ce sont à présent deux autres textes à la pudeur très coquine que m'a adressé avec un sourire mi-figue mi-raisin l'écrivain Yannick Glohagen. Pour le premier récit, nous sommes à Pont-l'Abbé, au cœur de l'été. Le festival La Fête des Brodeuses bat son plein et c'est à une petite escapade coquine que nous convie l'auteur avec ce témoignage très indiscret d'un bienheureux pin maritime au plein de sa vigueur et témoin involontaire mais ravi de la scène. Après la fête des brodeuses. Je suis ce pin maritime, celui qui détache ses branches en petits parasols pour abriter les baigneurs, mais aussi celui qui donne à la côte bretonne des impressions de Japon. En ce soir de juillet, comme à son habitude, le soleil tire sa révérence, mais ce vieux cabot lance encore quelques rayons sur la plage désertée. L'air est tiède, sans être chaud, et le vent solaire passe une dernière caresse sur mes aiguilles avant que je ne m'endorme. Un petit bruit, un frottement au pied de mon vieux corps ridé me tire de ma torpeur. Je regarde sous mes palmes et je vois une jeune bigoudaine dans son costume d'apparat. Elle a sans doute quitté la fête des brodeuses pour venir prendre l'air et profiter du calme de la plage abandonnée. Elle a retirer ses chaussures qu'elle tient dans sa main gantée de picots. De l'autre, posée en visière sur son front, elle scrute l'horizon. Satisfaite, elle pose ses escarpins à mon pied et entreprend de faire le tour de mon tronc. Juste à sa hauteur, elle y trouve un beau trognon de branches. Oh, de sa main délicate, elle l'effleure pour en tester la douceur, mais aussi la vigueur. Elle dénoue son tablier et le pend à mon appendice. Oh, me voici paré de perles et de broderies. Poursuivons son déshabillage. Elle délace son gilet brodé. Les fils d'or se mêlent sur un plastron de velours noir pour offrir des images couleur de soleil et de feu. Plumes de paon, roues et chaînettes étincellent dans le couchant. Elle dépose délicatement sur moi cette offrande du soir. La demoiselle fait maintenant glisser sa jupe et découvre de beaux bas blancs gainant ses jolies jambes. Elle étale son cotillon au sol, pose ses petites fesses culottées sur ce tapis improvisé. Voici donc la belle en chemise. Elle la dégrafe, exposant à l'air du soir sa poitrine menue. Levant une jambe vers moi, elle enroule la soie de ses bas vers sa cheville en l'air, puis recommence une nouvelle fois. Les deux bas roulés sont glissés dans les chaussures qui frôlent mon écorce. La bigoudaine se relève. Dans le même mouvement, elle se penche et fait glisser sa culotte de coton, révélant les deux jolies pommes de ses fesses. Poussant la main jusqu'à une cheville, elle s'incline plus encore et apparaît alors un petit abricot qui dévoile deux discrets oreillons. Elle lève un pied, puis l'autre, pour se libérer de son slip. Puis elle se redresse et le suspend à ma branche, durcie par les intempéries. Elle est à présent nue, face à l'océan. Mais ses mains sont toujours habillées de fils de dentelle. D'un pas décidé, elle se dirige vers la mer. Son corps ondule dans l'aurore qui embaume la résine des pas. Elle ouvre grand ses bras à l'Atlantique quand son pied touche l'eau saline. Puis elle entre plus avant et se mouille les genoux. Ses rubans et ses lacets ondoient vers moi pour un bref au revoir. Quand l'eau pénètre entre le haut de ses cuisses, je la vois tressaillir jusqu'à la pointe de sa coiffe de dentelle. Au milieu des vaguelettes, loin de la foule de la fête, la bigoudaine oublie le bruit, les clameurs, les hurrahs. De toutes mes racines qui courent sous la terre ensablée, je sais qu'elle se détend dans l'onde des marées. Ah, et pourtant, reviens, reviens vite, belle bigoudaine. Sécher ta peau salée sous mes ramures emmêlées. Toujours en bigoudénie et sous la plume leste, sans toutefois être paillarde, de Yannick Gloagen, rendons-nous en ce cœur stratégique des villages que furent naguère, ou jadis, selon votre âge, les lavoirs. Si l'on parle parfois d'un cœur de pierre, c'est loin d'être le cas des pierres de ce lavoir bigoudin, toute vibrante de sensualité et exaltée par la grâce voluptueuse de quelques belles fleurs de lavandière. Prêtons l'oreille en ce début de nuit aux souvenirs émoustillants et très personnels de la pierre du lavoir. Je suis cette pierre du lavoir, celle qui est et qui a toujours été. Laquelle croyez-vous que je sois ? Oh, je ne suis pas la plus convoitée comme une de celles qui sont lisses et inclinées et qui servent au lavage. Non, je ne suis pas non plus une de celles de la margelle qui, en se serrant les unes contre les autres comme des commères, font le tour de la cuve d'eau. Non, 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 je suis une de ces pierres du fond, une belle et large dalle qui fait le sol de la citerne, une des plus belles du temple des lavandières. Personne ne me remarque. Je suis sous la surface de l'eau, discrète sous l'onde claire qui coule dans ce canal forcé. Quelques herbiers me recouvrent, mais juste un peu. L'eau s'écoule sur moi, lissant le grain de ma peau de granit. Je suis placé sous les grandes dalles inclinées. J'en suis leur écho et je m'en trouve plus belle. Ah ! Combien en ai-je vu et entendu ? M'en souviens plus, ou plutôt si, je me souviendrai toujours de ces belles et plontureuses bigoudaines qui foulaient leur linge de leurs mains puissantes, puis le cognaient de leur battoir jusqu'à ce qu'il crache sa dernière crasse. Il en est une qui reste en mon souvenir, car son reflet est longtemps resté dans le miroir de l'eau. En toute saison, elle venait laver son linge, qu'il fasse froid ou chaud. Elle s'agenouillait à même la pierre comme pour accomplir un rite ancestral de purification. La première fois que je l'ai vue, elle était haute comme trois pommes et marchait à peine. On lui avait donné un torchon pour qu'elle joue avec. Sous l'œil inquiet de maman, elle avait gambadé autour de l'eau en susotant le tissu pendant toute la lessive de la matinée. Elle est revenue, plus grande, au beau jour, lorsque l'école donnait congé. Puis en grandissant, elle est venue plus souvent. Quand l'école l'a oubliée, elle est venue tout le temps. Les cheveux noirs, sagement peignés, elle portait un grand panier contre sa poitrine menue. Elle posait ses genoux cagneux sur l'épaisseur de ses jupes et lavait le linge en jetant un œil bleu sur le geste de ses aînés. Le temps a passé et, un jour d'été, elle a passé sa main dans l'eau et elle m'a réveillé. Ah, tout d'abord, ma vision fut troublée par le mouvement de l'eau et puis tout s'est calmé et je l'ai reconnue. Elle était devenue femme. Ses cheveux de jais retenant son bouloutin, elle portait ce gilet de velours noir qui écrasait sa poitrine et cette ample jupe qui cachait ses jambes. Il faisait si frais ce matin-là qu'on aurait pu imaginer que l'air deviendrait si chaud. Il était à peine 10 heures et la chaleur, renforcée par les gestes amples des lavandières, les mettait en nage. Elle se releva plusieurs fois pour passer l'avant-bras sur son front emperlé de sueur. Regardant autour d'elle et ne voyant que la junte féminine, elle desserra le velours et se mit en chemise. Les autres, surtout les plus vieilles, la regardèrent d'un air désapprobateur. Plus à son aise, elle battit son linge de plus belle, laissant sa lourde poitrine aller dans la camisole blanche au gré de ses mouvements de bras. L'air se chargeait d'une chaude humidité et détrempait les corps et les tissus. De son frottement régulier, la toile titillait la pointe de ses seins et l'étoffe imbibée laissait deviner 2 disques roses dont les mamelons hérissés étaient ceints de petits grains. Une goutte de sueur naquit à son front et coula le long de sa joue, échappant de justesse à un mouvement de bras. La goutte glissa le long de la joue et dévala le cou avant de rejoindre la poitrine. La petite goutte grossit au passage exigu qui séparait les seins et elle roula le long du ventre musclé et ferme, en tournant près du nombril, où elle fit une légère pause. Reprenant sa course, la perle de sueur traversa la toison brune et odorante, se faufila vers le fin sillon des lèvres, puis goutta sur la pierre chaude et humide. Elle se mêla enfin à l'eau laiteuse qui coulait dans le lavoir. Suivant le courant, la larme odorifique vint se déposer sur moi quelques instants avant de s'en aller. Les années ont passé et ma belle Bigouden a maintenant froid en toute saison. Elle calfeutre son buste plat dans un châle de laine, et quand elle plonge ses mains rougies dans l'eau froide du bassin, je regrette de n'avoir pu retenir cette goutte éphémère d'un temps si peu lointain. Aujourd'hui, on dit que la machine lavée a libéré la femme et l'homme, bien entendu, mais elle a tué le lavoir dont on ne prend plus soin. Les ruisseaux sont laissés à l'abandon, l'eau est polluée. Aujourd'hui, si vous voulez me contempler, il vous faudra gratter les détritus, racler les immondices. Néanmoins, il en faudrait bien peu pour que je retrouve mon lustre d'antan. Les Lavandières du Portugal. C'est sur cette version très dynamique due à Michel Legrand et son orchestre que nous nous quittons. Ce soir, dans La Plume est à vous, vous avez entendu trois poèmes de Marie-Robin Bourdon, Arc-en-ciel, Guignol, puis Soleil Rose, suivi de deux textes mi-libertins, mi-canaille de Yannick Glohagen, Après la fête des brodeuses et la pierre du lavoir. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 21h comme d'ordinaire pour une nouvelle édition de La Plume est à vous. Je reste preneur de vos textes que vous pouvez toujours me faire parvenir à l'adresse suivante plume@bretagne5.fr avec vos coordonnées ainsi qu'une courte biographie. Merci, merci à l'ami Frédéric Guyon, magicien aux doigts d'or qui veille avec talent à la réalisation de cette émission. Passez, chères auditrices et chers auditeurs, une très très belle nuit suivie d'une agréable semaine. À dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.